Et l'après-midi, les vêpres, ce seront aussi la chorale, puisque je devrais aller dire la messe à Lorient l'après-midi. Je ne ferai pas la cérémonie des rameaux. Je leur emporterai les rameaux que j'ai bénis le matin. Et puis, je ne sais pas si c'est votre feuille est comme la mienne, en double. En tout cas, vous avez les offices, l'heure des offices pour la semaine suivante, pour la semaine sainte. Donc, vous avez vu, j'ai mis quelques créneaux horaires pour les confessions, pour que vous puissiez vous répartir équitablement. Notez bien que le soir de Pâques, le dimanche 10 avril, il n'y aura pas de messe. Hein. Il y aura la vigile pascale, la messe de 8 heures du matin, la grand-messe de 10 heures à Pâques, et les vêpres, mais il n'y aura pas de messe ce soir. Enfin, dernière chose. Le ménage pour Pâques sera fait samedi 9 avril, de 10h à 16h. Donc merci d'avance à toutes les bonnes volontés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En entrant dans la chapelle, la première chose peut-être qui a marqué les enfants, les femmes, les hommes sont un petit peu plus distraits, moins observateurs du premier coup d'œil, mais ces voiles violets qui ont été placées sur les statues, essentiellement sur les croix, la croix de l'autel, bien sûr, et aussi les statues, éventuellement les tableaux. Voile violet, le violet c'est une couleur de tristesse, de pénitence. C'est sombre, ça fait penser à la mort, évidemment. Autrefois, encore toujours, nous, dans notre liturgie catholique de Saint-Pédis, eh bien, les enterrements sont célébrés en noir. Depuis 2000 ans, ça a toujours été la couleur, le noir. Les modernistes ont voulu atténuer, évidemment, ça fait peur, le noir, ils ont mis le violet, voire même le rouge. Un violet qui tire sur le rouge. Bon, ce sont les modernistes. Toutefois, il est vrai que le violet, par exemple, le conopé du tabernacle, n'est jamais en noir. Ça n'existe pas. Sur le plan liturgique, des conopés en noir, il doit être en violet. Donc, il y a bien ce rapport étroit entre la mort et cette couleur violet, le violet foncé qui nous fait penser à cette tristesse, à ce deuil. En effet, nous sommes maintenant très proches de la Semaine Sainte et du Vendredi Saint, qui est vraiment le jour le plus triste pour les chrétiens, puisque c'est le jour anniversaire de la crucifixion, de la mort de notre Dieu sur la croix. Et le dimanche qui précède ce Vendredi Saint, donc le dimanche de la Passion, j'aime à vous rappeler, à vous aider à méditer quelques scènes douloureuses, il est vrai, du chemin de la croix. Ce chemin de la croix que nous faisons le vendredi, certains n'ont pas la possibilité de venir à la chapelle. Vous avez des manuels, beaucoup de textes variés sur le chemin de la croix. Si votre emploi du temps est tellement important que vous n'avez pas la possibilité de lire ce chemin de croix, vous l'avez même en audio. J'en ai trouvé un qui est très beau, d'un prêtre du 19e, je crois que c'est l'abbé Regnault. Bon. Donc vous avez toute facilité, je dirais, toute facilité pour pouvoir méditer la passion de notre Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas le chemin de croix que nous allons faire pendant cette homélie, mais seulement quelques tableaux, quelques scènes, quelques stations, si vous voulez, de ce chemin de la croix. Certes, toutes les stations nous apportent un message personnel. Toutes ces stations doivent nous toucher au plus profond de notre cœur, de notre âme. Certaines stations, peut-être, sont plus éloquentes. En particulier, cette station où Jésus est traîné, n'est pas convoqué. Aujourd'hui, on est, comprenez, si la police vous arrête, vous êtes convoqué au tribunal. Notre Seigneur n'a pas été convoqué au tribunal devant les grands prêtres et toute la clique. Non, on l'a conduit manu militari, c'est-à-dire par la force militaire, sans ménagement. N'allez pas vous imaginer qu'il y avait un avocat, ou bien pour les hommes importants, vous savez, c'est pas un avocat qu'ils ont, hein. C'est un certain nombre d'avocats. Jésus n'avait aucun avocat durant ce trajet, et que des ennemis. Donc on ne s'est pas gêné lors du trajet pour lui donner des coups de pied dans les chevilles, des coups de bâton sur les épaules. Voilà. Donc je vous laisse imaginer, déjà, il y a eu le jardin des Oliviers. Ce n'est pas une scène que nous allons méditer, mais vous savez ce qui s'est passé au jardin des Oliviers. L'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. D'après les auteurs sérieux, les médecins, en particulier si vous avez lu la Passion de Jésus-Christ selon le docteur Barbet, notre Seigneur aurait dû mourir durant l'agonie au jardin des Oliviers. C'est un phénomène très rare et aucun être humain ne résiste à cet éclatement général des vaisseaux sanguins. Notre Seigneur est homme, mais il est Dieu. Et la divinité a maintenu, contre toute attente, l'humanité de Jésus en vie. Pour qu'il puisse aller plus loin dans le témoignage de son amour pour nous, et du prix qu'il va payer, lui, le Verbe incarné, pour nous racheter. Donc il arrive, je dirais, dans un état pitoyable devant ses juges, les juges d'Israël. Il va y avoir un autre tribunal ensuite, le tribunal romain, mais pour l'instant c'est le tribunal, le Sanhédrin, avec le grand prêtre. Et tout en étant meurtri de toutes parts, Jésus garde une grande dignité. Vous pouvez vous imaginer des condamnés, vous avez peut-être assisté à des retransmissions télévisées de procès. C'est pas toujours édifiant, hein, le comportement des criminels qui sont jugés. Notre Seigneur garde une très grande dignité devant ses adversaires. C'est vraiment paradoxal, c'est vraiment inouï de voir le Créateur devant ses créatures. Il est là l'accusé. Notre Seigneur aurait pu leur faire un sermon. Il ne le fait pas. Il aurait pu leur rappeler pourquoi il est là, ce que les prophètes ont annoncé, non seulement sur le Messie, mais sur la période même où le Messie allait venir sur la terre. C'était inutile. Ils avaient déjà décidé, à part quelques exceptions. Mais vous savez, ce procès religieux, parce que c'est un procès religieux devant le grand prêtre, Sanhédrin, était tout à fait illégitime. Je vous conseille de lire l'ouvrage des frères Lehmann, qui étaient des juifs. Je ne sais plus exactement si c'était, il me semble que c'était au 19e, enfin peut-être je me trompe d'un siècle, mais c'est dans ces eaux-là que les frères Lehmann ont paru sur cette terre, des juifs qui se sont convertis, sont devenus prêtres, et qui ont écrit un certain nombre d'ouvrages, et en particulier, donc ils connaissaient bien la question, si vous voulez, et ils ont relevé toutes les irrégularités qui rendaient ce jugement invalide, complètement faux, caduque. À l'époque, il n'y avait pas la cour d'appel et la cour de cassation. Hein. Mais s'il y avait eu la cour d'appel et de cassation, ce jugement aurait été annulé tout de suite, tellement il y avait d'irrégularité. D'abord, ça s'est fait dans la nuit, ce qui ne devait pas se faire. Ensuite, vous savez, les combines, on s'était bien gardé de convoquer, parce que en plein jour, c'est pas trop difficile de convoquer les membres du Sanhédrin, en pleine nuit, les faire sortir du lit, tout ça. Bon. Alors, on s'était bien gardé de convoquer ceux qui dont on n'était pas trop sûr. Donc on voulait absolument qu'il y ait l'unanimité pour la condamnation à mort de Jésus. Donc les jeux étaient faits d'avance. Ces hommes-là, je dis pour la grande majorité, et donc le grand prêtre, ne cherchaient pas la vérité. Ils étaient tellement dans le péché, pas dans n'importe quel péché, certes. Il y avait toutes sortes de péchés chez eux, comme chez tous les hommes. Peut-être ils étaient avares. Peut-être ils étaient menteurs, peut-être ils étaient luxurieux, mais le plus grave de tout, eu égard à leur fonction de juge en Israël, Sanhédrin c'était le grand tribunal qui traitait des affaires, on n'y sait pas le Sanhédrin, pour trois poules. Ça avait été volé, vous comprenez? Ils auraient dû être vraiment des juges impartiaux. Parce que sur la terre, à l'époque, il n'y avait pas d'autre religion valable. La seule religion, c'était celle des Juifs. Ils auraient dû montrer l'exemple à toute la terre par leur impartialité, par leur droiture. Mais non. La vérité, ils s'en détournaient. Et pourtant, ils avaient eu toutes les preuves. Ils n'étaient nullement ignorants des nombreux miracles qui avaient été accomplis par Jésus. Là encore, quand quelqu'un est traîné devant les tribunaux, bon, il a ses avocats, et les avocats rassemblent tous les éléments qui vont être en faveur de la personne qui est accusée. Vous voyez, par exemple, on aurait pu convoquer Lazare, que Jésus avait ressuscité alors qu'il était mort et bien mort, puisque on sait que ça faisait déjà plusieurs jours qu'il était au tombeau, et il fallait bien le mettre au tombeau parce que le corps commençait à sentir la décomposition. Là, il n'y avait pas de doute, hein, il était bien mort. Et donc, Lazare, ce n'était pas un inconnu en Israël. Tout le monde était au courant. On s'est bien gardé d'aller chercher Lazare pour défendre Jésus à son procès. Et combien d'autres ? Aveugles de naissance que Jésus avait guéri, sourds, muets, possédés, enfin. Il y avait pléthore, je dirais, de candidats pour venir attester de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et du bien que notre Seigneur Jésus-Christ avait fait à cette population. En revanche, on était bien incapable de trouver un seul individu qui aurait été maltraité par notre Seigneur, auquel notre Seigneur aurait fait du tort. Et pourtant, on veut la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dérange. La vérité dérange. Et surtout, l'auteur de la vérité. Alors on va, pour étayer ce procès, trouver des faux témoins qui vont se contredire les uns les autres, parce que, en particulier, celui qui dit « Ah, il a dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai. » Ah, voilà l'aubaine, voilà. Il va détruire le temple de Jérusalem, enfin c'est épouvantable. Tout le monde va se dresser contre cet individu, cet imposteur. Aveuglés, ils n'ont pas compris qu'il parlait de sa propre personne. Nous disons que nous sommes les temples du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Hein ? Quand nous avons Dieu en nous. Et de fait, Jésus ressuscitera, comme il l'avait annoncé, au 3e jour. Voyant que ça tournait au vinaigre et qu'on n'avançait pas, le grand prêtre va poser la question fatale, d'une certaine manière, à Jésus. Es-tu le béni, le Dieu vivant ? Notre Seigneur ne peut pas nier, parce qu'il n'est pas un menteur, comme la plupart des hommes. Il n'est pas un lâche. Nous allons voir dans quelques instants la lâcheté de Pilate. Tu l'as dit, je le suis. Ils ont tous entendu. Alors le grand prêtre, c'est ce qu'il attendait. Cherche pas à savoir si ce que Jésus dit est la vérité, mais il a prononcé les paroles fatales. Donc dans un geste de comédie théâtrale, il fait semblant de déchirer ses vêtements. Blasphème, blasphème, vous l'avez entendu. À mort, à mort, à mort. Ça y est. On avait réussi à arracher cette condamnation à mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez un petit peu comment notre Seigneur subit tout cela. À des questions précises, comme cette dernière question, il a répondu. Mais autrement, il ne cherche pas à se défendre. Il ne cherche pas à amoindrir la dureté du jugement. Il sait que la volonté de son père et sa propre volonté est de s'offrir en victime sur le calvaire pour nous sauver. Car personne d'autre ne peut sauver l'humanité. Ce n'est pas le plus grand des anges, ce n'est pas le plus saint des hommes. Il faut l'homme Dieu qu'il est, le Verbe incarné. Par son humanité et par sa divinité qui donne une valeur infinie à tous ses actes. Pensons un petit peu à ce que nous sommes, à ce qu'est notre réaction très souvent lorsque nous sommes accusés, maltraités par les autres. Quelquefois, à juste titre, on nous fait des reproches. Et même quand ces reproches sont légitimes, sont vrais, les enfants, quand vos parents vous font certaines remarques sur votre conduite, sur les personnes que vous fréquentez, qui ne sont pas toujours comme il faudrait, est-ce que vous êtes vraiment disciple de notre Seigneur Jésus-Christ en acceptant ces remarques qui sont justes et fondées? Je ne dis pas que vos parents ont forcément toujours à 100% raison. Tout le monde peut un petit peu exagérer ou se tromper, moi le premier. Mais en général, quand même, les parents font des remarques légitimes à leurs enfants. Quel est votre réaction? Est-ce que c'est une réaction d'enfant de Dieu, semblable à celle de notre Seigneur? Grande différence, c'est que notre Seigneur, dans toutes les accusations, dans toutes les remarques qui lui ont été faites, rien n'était recevable, tout était de la calomnie, du mensonge, tandis que nous autres, il y a des choses qui sont vraies, et nous ne voulons pas les entendre, par orgueil. C'est l'orgueil, c'est pas autre chose. On ne souffre pas qu'on nous fasse une remarque. Imaginez un petit peu, si vous deviez être traduit devant des tribunaux, injustement, parce qu'on vous a calomnié, parce que vous êtes trouvé dans une situation comme ça, où tous les faisceaux tombent sur vous, ben forcément vous êtes coupable, alors que vous n'êtes pas coupable. Vous êtes condamné à une époque où il y avait la peine de mort, hein. Vous êtes condamné à mort. Quelle serait votre réaction? Il y a eu des chrétiens, des grands chrétiens, qui ont été ainsi condamnés. Leur demandons à notre Seigneur, eh bien, de nous donner un petit peu plus d'humilité. Car vraiment, devant le Sanhédrin, Jésus s'est humilié. Ne cherchant pas à se justifier, alors qu'il était nullement coupable. Demandons-lui d'avoir cette réaction, ce sursaut de vertu chrétienne, pour ne pas toujours vouloir répondre à tout, mais savoir reconnaître, oui, c'est vrai, je n'aurais pas dû, je me suis trompé, je ne suis qu'une pauvre pécheresse, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Laissons le tribunal du grand prêtre et allons voir du côté de Pilate. C'est un autre décor, ce n'est pas un décor religieux, c'est pompeux, c'est le pouvoir de César, Pilate n'est pas très content qu'on lui amène Jésus. Pilate n'est pas un adversaire de la vérité. D'ailleurs, durant le procès devant Pilate, là, à plusieurs reprises, Pilate va essayer de sauver Jésus. Car il sait, c'est le pouvoir politique. Le pouvoir politique, vous savez, il sait beaucoup de choses. Il y a des agents de renseignement, bon, moins perfectionnés qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous savez, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Ils écoutent vos téléphones, ils vous suivent sur l'ordinateur, tout ce que vous allez regarder, s'ils veulent. Hein. Bon, à l'époque, il faut envoyer un bonhomme qui écoute à la porte, hein. Sinon, il n'y a pas de micro là, dans les poches ou dans les stylos. Bon, mais enfin, Pilate s'y demande un rapport. Le rapport arrive très rapidement et il est au courant de tout ce que Jésus a fait. Pas ignorant de la résurrection de Lazare, de tous ces pauvres gens qui ont été sauvés, guéris par notre Seigneur Jésus-Christ. Il sait très bien que Jésus a répondu aux pharisiens un jour qui voulaient le piéger. Rendez donc à César ce qui est César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce n'est pas un ennemi de César. Il connaît la malice et la méchanceté des Juifs. Et ça le dérange vraiment de devoir condamner ce Jésus qui lui apparaît comme un juste, un brave. Mais Pilate n'est pas un religieux. C'est un Romain, c'est un païen, il adore les dieux de l'Empire, bien que sa femme, vous le savez, était proche de Jésus. Et d'ailleurs, elle va lui faire dire qu'il n'est rien à voir dans la condamnation de Jésus, qu'il ne participe pas à la condamnation de Jésus parce que c'est injuste. Mais il y a des jours où les hommes feraient bien écouter leurs femmes. Et ce jour-là, Pilate aurait bien dû écouter sa femme. Mais il ne l'a pas écouté. Il a eu peur de perdre son pouvoir de gouverneur romain, parce que les Juifs l'avaient menacé. Si tu ne condamnes pas cet homme, attention, nous allons en référer à Rome. Et comme il avait déjà eu des démêlés avec les Juifs, que ça s'était mal passé, il n'avait pas envie que, à nouveau, il y ait un rapport qui tombe sur le bureau de l'empereur. Qu'est-ce qu'il va faire? L'œuvre des lâches. Et à l'époque, aujourd'hui c'est pas ce que nous faisons, mais enfin, il demande un bassin et devant tout le monde, il se lave les mains. On a gardé l'expression « je m'en lave les mains ». C'est-à-dire, c'est pas mon problème. Je m'en occupe pas. Faites ce que vous voulez. Débrouillez-vous. Oui, mais Pilate, tu es le gouverneur. Tu es le maître absolu, envoyé par César pour gouverner. Normalement, ce ne sont pas les Juifs qui doivent avoir le dernier mot. Le grand prêtre lui-même ne peut pas prononcer et exécuter un homme sans ta permission. Eh bien, par lâcheté, Pilate va laisser condamner notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, avant, il va le faire flageller, se disant que peut-être les Juifs, voyant notre Seigneur dans un tel état de fébrilité à cause de la douleur. La flagellation, chez les Romains, c'est pas le petit coup de martinet que papa donne sur les cuisses de Jojo, hein. Ne vous plaignez pas quand vous avez un coup de martinet, les enfants. Parce que, d'abord, vous l'avez mérité, premièrement. Deuxièmement, ça n'a rien à voir avec le fouet des Romains, qui, à chaque coup, arrachait un lambeau de chair. Parce que dans le bout des lanières, on mettait du plomb ou des choses semblables qui s'incrustaient dans les chairs. Donc Pilate se disait, ce n'est pas possible que quand je vais leur présenter Jésus après la flagellation, ils ne calent pas. C'est-à-dire qu'ils disent, non, ça va, il le sait, on ne va pas le crucifier avec ce qu'il a. Eh bien si, ça ne leur suffira pas. Et donc, Jésus qui n'a pas un centimètre carré de son corps, qui n'a été atteint par les fouets déchirés, on pourrait dire Jésus, une plaie au sens strict, hein, pas au sens figuré, au sens strict, une plaie vivante. Tout son corps était à vif. Ça coulait partout, le sang. Et puis, il y a cette scène où les soldats vont s'amuser, donc, lui mettre un manteau écarlate, lui mettre une couronne de dérision sur la tête, avec des épines. Oh, vous inquiétez pas, ils n'ont pas touché de crainte de se piquer, hein, parce que les épines qu'il y a là-bas, c'est pas les ronces qu'on a chez nous. C'est des épines très longues, très pointues, c'est épouvantable. On attrape le tétanos avec ce genre d'épines-là, quand on se met un peu. Ah oui. Et on lui a enfoncé ça avec un bout de bois, c'était une espèce de bourrée qu'on lui a mis sur la tête. On a enfoncé ça avec un bout de bois, on n'a surtout pas touché. Imaginez quand ces épines le sont enfoncées dans la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Là encore, quelle humilité, couronne de dérision. Notre Seigneur expie tout notre orgueil et avouons-le, notre vie. Je ne vais pas vous dire effet que d'orgueil, mais il y en a beaucoup. Hein. De vanité, de susceptibilité, de désir de paraître, d'avoir raison, que sais-je. Eh bien lui, dont la tête devrait être couronnée de pierres précieuses, de tout ce que l'univers a de plus splendide. Non. Ah oui, il est couronné, avec des épines de dérision, qui le blessent, moralement bien sûr, mais physiquement. On lui a mis un roseau entre les mains pour se moquer. C'est son sceptre. Et puis, un plus pervers que les autres, plus bête. Vous savez, l'homme, on parle aujourd'hui de la dignité de l'homme. Quand l'homme n'est pas avec le bon Dieu, ben il n'est pas beau, vous savez. Quand l'homme s'éloigne de la loi de Dieu, du décalogue, quand l'homme quitte les frontières de l'Église, de la Sainte Église, là où il y a la grâce, il y a les sacrements, l'homme est capable de n'importe quoi. Regardez toutes les abominations qu'il y a eu au cours de l'histoire, les massacres, dans les guerres et tout. Des bêtes ne feraient pas ça. Ben, des hommes sont capables de faire ça. Alors, il y en a un qui a l'idée, comme ça, génial, mais un roi, il faut l'adorer. Alors, ils passent les uns après les autres, en esquissant des génuflexions grotesques devant lui. Et puis, il y en a un qui a une idée diabolique. Il se dit, mais on pourrait faire mieux. Et il se racle le fond de la gorge, qui est un petit peu enrhumé, et il envoie un gros crachat en plein visage de Jésus. Éclat de rire général. Oh, oh ben ça, quelle idée géniale. Les autres font de même. Toute la troupe crache au visage de Jésus. Il y a un commun masque dégoûtant. Vous trouvez ça vraiment infâme, n'est-ce pas ? Révoltant. Que l'être humain puisse se laisser aller à une telle bassesse, une telle méchanceté. Et pourtant, combien de fois n'avons-nous pas craché au visage de Jésus ? Quand nous péchons, nous ne faisons pas autre chose. Et ce ne sont pas les péchés les plus graves. Ce ne sont pas les péchés mortels. Mais ce sont ces péchés véniels, délibérés, que nous faisons et que notre Seigneur reçoit en plein visage. Alors oui, mes bien chers frères, pour conclure, le temps n'est pas à la rigolade. Le temps de la passion n'est pas à la distraction, à la mondanité. Mais c'est le moment de verser des larmes, c'est le moment de pleurer. Car au-delà de ces Juifs de l'époque, c'est nous tous qui avons ainsi traité Jésus. C'est nous tous, par nos péchés, qui parmi nous pourrait dire « Non, monsieur l'abbé, moi, je n'ai pas péché. » Donc, tous, voyez, comme ces Juifs-là qui voulaient lapider une femme. Et notre Seigneur leur dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ils se sont tous tirés, n'est-ce pas ? À commencer par les plus vieux. Il n'est resté que Jésus avec la femme. Moi non plus, je ne te condamnerai pas, mais ne pêche plus. Eh bien, nous avons tous participé activement, spirituellement en tout cas, à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une solution pour nous en sortir. C'est pas de dire « Ah, c'est pas moi, Seigneur, c'est pas moi, c'est les Juifs. » Non, non, sale race, n'est-ce pas hein? C'est les Romains, c'était des païens. Pas étonnant, c'était des païens. Non, c'est pas comme ça. C'est en pleurant nos péchés et en nous corrigeant de nos mauvaises actions, de nos mauvaises habitudes, de nos mauvais penchants, en changeant de vie. Eh bien, demandons à la très sainte Vierge Marie qui a suivi son divin Fils tout au long du chemin de la croix, qu'elle nous accompagne tout au long de notre vie, qui est d'une certaine manière un long chemin de croix, et qu'elle nous rappelle toujours que c'est par amour pour nous que son Fils a tant souffert et est mort sur la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.